Il ne vous reste que quelques semaines pour vous rendre voir et apprécier de près l'exposition consacrée à Jasmina Sibic au DHCR, donc jusqu'au 3 mars 2019. Alors, je laisse Pierre Archambault introduire cette exposition d'envergure ainsi que notre invité en studio.
Alors, l'année dernière, nous avons célébré le 50e anniversaire d'Expo 67, qui fut un événement très important dans l'histoire du Québec. Et cette exposition regroupait plusieurs pays qui ont construit des pavillons où la culture, la science et l'économie étaient mises en valeur. Et l'artiste Jasmina Sibic, née en 1979 en Slovénie, jette un regard critique sur la Yougoslavie de cette période par le biais d'installations, de sculptures, de films et de photographies. Et pour nous en parler, j'ai invité Cheryl Sim, qui est commissaire de cette exposition présentée jusqu'au 3 mars à DHCR. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en 2013, Jasmina Sibic représentait la Slovénie à l'importante Biennale de Venise. Est-ce que c'est à cette occasion que vous avez connu l'œuvre?
Oui, exactement. J'ai vu le pavillon et j'étais complètement émerveillée par sa façon d'utiliser tout l'espace. Elle fait vraiment les œuvres totales où elle se sert des planchers, des murs, le plafond, mais aussi la façon qu'elle fait des films qui ont une esthétique et une qualité assez singulière. Donc, par la suite, je suis rentrée en contact avec elle via le consulat de la Slovénie, qui est un peu ironique parce que son travail est vraiment critique de comment l'État sert des artistes et de l'architecture.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait un thème à Venise?
Oui. Pour elle, elle regardait les symboles nationalistes et en Yougoslavie, à une certaine époque, c'est un genre d'insecte, un beetle en fait, qui s'appelait le beetle Hitler. Donc le nom d'Hitler n'était pas une mauvaise chose, c'était pas négatif. Donc c'était assez important pour qu'il nomme l'insecte national après lui. Et puis elle a créé une motif de papier peint qui était partout dans cette pavillon, sur toutes les surfaces.
Et l'ancrage des œuvres installées à DHCR est relié au pavillon yougoslave de l'Expo 67. Madame Sibic s'est-elle installée pendant plusieurs mois à Montréal pour se documenter le pavillon et le contexte de l'époque?
Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle habite à Londres et elle nous a demandé de lui aider avec la recherche. Ça, c'est une grande partie de sa démarche. C'est vraiment une fois qu'elle a compris un petit peu le contexte dans lequel elle va présenter, donc Montréal, elle voulait vraiment plonger dans les archives et étant donné qu'elle a travaillé sur plusieurs expositions antérieures sur la question de la représentation du Yougoslavie dans les expositions mondiales. Et le fait que j'ai dit, écoutez, nous avons aussi eu une exposition mondiale en 67. Elle est plongée dans les archives en sachant que c'est la dernière fois que la Yougoslavie a été représentée dans une exposition mondiale. Et c'était assez difficile, en fait, à trouver des infos sur ce pavillon-là. Ce pavillon existe toujours. Mm-hmm. C'était démonté et remonté en tant que musée maritime à Grand Bank, Terre-Neuve. Et on avait à consulter The Rooms, qui est un centre de recherche, pour leur demander s'ils avaient quelques infos. Puis on a fourni ce qu'on pouvait trouver, en fait, à elle. Et de sa part, elle a trouvé des choses à Zagreb.
Et la démarche de l'artiste se fonde surtout sur le concept d'art total, ce qui exige la collaboration de plusieurs experts. Est-ce qu'elle amène ces experts avec elle ou elle les a choisis ici même au Québec?
Les experts font partie d'une équipe qu'elle a nourrie au fil des années. La plupart sont en Europe de l'Est. Donc, ils sont plutôt à Zagreb, à Belgrade et aussi à Londres. Donc, c'est ça. Elle a fabriqué, elle a comme un peu confectionné son équipe. Mm-hmm. Mais on a quand même trouvé des super bonnes artisans ici à Montréal qui ont fabriqué ces socles qui sont très, je dirais, ornementés, faits en acier. Donc, c'était une collaboration qui était au-delà un peu de ses frontières.
Mm-hmm. Alors, la Fondation DHC occupe deux bâtiments, le 451 et le 465 Saint-Jean. L'artiste a conceptualisé ces deux espaces de quelle façon?
C'est ça, différemment. Elle a respecté un petit peu où elle a trouvé l'inspiration par le fait que le 451, c'est un bâtiment à quatre étages, plus intime, plus rembourré. Donc, elle voulait créer de ça la maison d'un collectionneur pas nommé qui a un peu... donc, l'espace est paré d'éléments architecturaux, d'objets, de photos et de films puisés dans les archives de quatre importantes représentations de l'ex-Yougoslavie à l'occasion d'expositions universelles. Puis l'autre bâtiment, 465, qui est plus grand, plus espacé, elle a décidé de mettre une trilogie de films assez impressionnant. Des installations films qui sont ornées d'objets sculpturales, mais aussi avec un film avec des dimensions un peu monumentales.
Dans le bâtiment quatrième étage, les murs sont couverts du plafond au plancher de tentures avec de nombreux motifs, dont un cercle avec la croix en bas qui est symbole de la femme, et aussi une lettre E majuscule, symbole de la fossile aussi. Est-ce que ce rideau d'abord a été confectionné ici même ou si elle a porté ça avec elle-même?
Ça, c'est l'élément peut-être le plus intense, monumental de toute l'exposition. Ils ont été effectivement conçus pour cette exposition à Montréal. Elle a pris l'inspiration du motif d'une tapisserie qui se trouve dans l'ancien palais de la Fédération à Belgrade. Ça devient de plus en plus foncé en couleur. Le plus haut que tu montes dans le bâtiment pour représenter un peu la disparition de l'Yougoslavie au fur et à mesure. Oui, c'est
là, vous parlez dans les salles d'exposition.
C'est ça, c'est sur les quatre étages. Mm-hmm. Oui, voilà. Non, donc, elle fait un genre d'appropriation, en fait. Quand elle fait ses recherches, elle trouve des motifs, elle trouve des symboles. Ensuite, tu sais, elle crée un motif après ça qui veut s'incarner dans différentes façons et sera réitéré dans l'exposition. Soit cette symbole E va devenir un banc dans une autre partie de l'exposition, troisième étage par exemple, ou cette symbole de croix avec le symbole de femme va devenir un instrument de musique pour un autre film, d'accord, par exemple. Donc c'est cette réitération ou recitation de symboles devient une façon de parler de comment les États font un peu de créer des mythes dans nos têtes, parce qu'on l'a entendu, on la voit de différentes manières. Donc, elle se sert de symboles dans cette façon.
C'est quoi le symbole de cette lettre E? Connaissez-vous?
Ça, j'ai aucune idée. Ça fait partie un peu de cette... comment est-ce le symbole vient de quoi? Et comment est-ce que ça devient imprégné dans notre perception jusqu'au moment où on ne sait plus et c'est pas important. Des fois, on se demande la même question pour les symboles qui sont devenus importants pour les Canadiens. Ça vient d'où? Est-ce qu'on sait encore ou on historique. Sait juste que ça veut dire ça?
Mm-hmm. Et il y a également 6 photographies qui montrent une danseuse qui tient un drapeau noir où il y a une phrase inscrite. Quelle en est la provenance de ces phrases?
Oui, elle, comme j'y ai expliqué, elle pige beaucoup dans les archives, mais aussi les transcriptions des discours faits par les grands leaders, les grands politiciens au fil du 20e siècle. Donc, ces phrases-là viennent un peu comme des slogans. Hein? Elle a réalisé en lisant ces transcriptions que les politiciens ou ceux qui rédigent les discours pour les politiciens savent comment parler en slogan, finalement. Mm-hmm. Donc, elle a pris différents slogans, différentes phrases, différents discours pour ces drapeaux. Et oui, c'est les six photos représentent les six républiques de l'ex-Yougoslavie.
Et au troisième étage, il y a deux tapis suspendus dos à dos avec un motif d'arche médiévale et aussi des oiseaux en vol sur fond rouge. Expliquez-nous le sens de cette et la fonction de cette installation.
Voilà. Donc c'est ça, c'est deux tapisseries ou plus des kilim, c'est des textiles tissés par des femmes à Bosnie qui ont toujours cette pratique. Ça dit stagecraft sur un et statecraft sur l'autre. Et ça, c'est pour parler de l'art de gouverner. Hein? Ce que nous faisons dans le théâtre pour créer la scène, c'est un peu ce que l'État fait pour créer une perception de leur pouvoir dans nos têtes, pour vendre un petit peu leurs intérêts à nous. Donc, elle a créé ces deux kilim où c'est évoqué la pratique d'utilisation en Europe de l'Est, d'avoir un genre de tapisserie qui est sur, par exemple, une balustrade. Et derrière la balustrade, c'est où souvent le roi ou la reine ou la personne au pouvoir va livrer un discours. Mm-hmm. Donc, elle évoque un peu cette notion d'un objet qui est utilisé pour représenter le pouvoir. Des fois, c'est des bouquets de fleurs, etc. Donc, pendant le week-end, il y a des femmes qui chantent aussi avec les paroles, un peu pris par ces discours-là aussi, qui est un peu absurde, un peu drôle, mais aussi très beau. Et ça réinvestit l'espace avec la voix de la femme qui est souvent pas présente hein, dans les endroits de pouvoir.
Mm-hmm. Alors, on fait une petite pause. Il y a la danse qui est importante dans certains films de Mme Sibic et on peut entendre, entre autres, le mandarin merveilleux, les pantomimes de Béla Bartok. De retour avec mon invité Cheryl Sim pour parler de l'exposition à DHEA. Alors, au deuxième étage, il y a un film qui montre de jolies femmes, je souligne, qui énonce des théories sur l'architecture dans un édifice luxueux. C'est là qu'on peut dire qu'elle affirme la notion féministe dans
son
œuvre.
Absolument, exactement. C'est une préoccupation dans tout son travail, c'est la place de la femme, donc une critique féministe, en fait, du pouvoir. Effectivement, dans ses recherches, elle a vu que la présence de la femme est toujours d'une certaine nature, soit érotisée, donc dans une sculpture, par exemple, ou dans le cas de la pavillon à Montréal, tous les tapisseries ont été faites par les femmes qui étaient des femmes ou des copines des hommes en politique. Donc, elle voulait réinvestir l'espace et réinvestir ses films avec la voix de la femme et la présence des femmes. Mais vous soulevez une bonne observation, c'est qu'ils sont tous très belles conventionnellement.
Oui, c'est presque c'est quelque, des mannequins.
Oui, donc c'est quelque chose qu'on a discuté aussi. Pourquoi est-ce qu'elle n'aborde pas une critique où on a les femmes de différentes couleurs, de différentes formes, de différents niveaux de beauté conventionnelle, où on lance un défi un petit peu à ses idées.
Ouais, Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Hein,
Et finalement, on a eu une bonne discussion sur la question de complicité. Et comment, d'une certaine manière, on est tous complices dans le nourrissement d'une certaine qualité de représentation et qu'est-ce qui peut représenter le mieux. Et elle voulait pas comme répondre à ma question, mais elle voulait juste souligner le fait que c'est flou et complexe.
Alors, au plancher de cette même salle, il y a deux grands cercles en métal noir avec l'inscription « Nothing that you fear, everything that you desire ». C'est un extrait d'un discours?
Oui, c'est ça. C'est un discours aussi donné par un grand politicien et un slogan qu'elle reprend c'est le titre de l'exposition, c'est aussi dans une de ses sculptures. Et c'est vraiment un discours qui parle de qu'est-ce qui sera la meilleure chose ou comment est-ce que nous pouvons montrer le meilleur de notre état.
Mm-hmm. Et au premier étage, sur une table asymétrique, il y a une maquette d'un bâtiment avec plusieurs angles, des niveaux différents, de multiples fenêtres aussi laissent voir à l'intérieur une piscine remplie d'eau. Je crois que là, il y a un lien étonnant avec une grande vedette du début du siècle, Joséphine Baker.
Oui, c'est très curieux. Donc, elle confond deux grands bâtiments importants ensemble. Le premier, c'est le pavillon de Barcelone, le pavillon d'Yougoslavie présenté à Barcelone en 1929, qui était fait par Brajovan, qui était un architecte yougoslave moderniste important. C'est vraiment, vraiment avant-gardiste pour l'époque. Ça n'a pas gagné le Grand Prix, mais Adolf Loos, qui était aussi architecte, vraiment influenceur, a rencontré Joséphine Baker dans une fête à Paris et est tombée sous sa charme, lui a proposé une maison qu'elle voulait dessiner pour elle. Puis elle était tellement influencée par le pavillon de Brajovan qu'elle a repris un petit peu les mêmes traits noir et blanc, et a conçu une maison avec une piscine à l'intérieur, avec un café au-dessus, où on pouvait observer Joséphine Baker pendant qu'elle nageait dans sa piscine. Donc, sa question de présence du corps féminin et comment c'est plutôt érotisé est aussi c'est la proposition de Yasmine.
Oui, ça incite au voyeurisme.
Tout à fait. Mm-hmm. Un panopticon érotique.
Alors, le 465, il y a une grande salle avec une immense photographie noir et blanc montrant une montagne et à ses pieds, des ouvriers qui construisent des pavillons. Sur le plancher, il y a 6 formes triangulaires noires dont les pointes sont cylindriques. Alors, expliquez-nous toute cette mise en scène.
OK. Elle adore vraiment se servir de tous les murs pour vraiment créer une expérience immersive. Mm-hmm. Donc, C'est une très grande salle où tous les murs ont cette murale qui a été confectionnée à partir des images prises de l'archive de Tito, qui était le président de l'ex-Yougoslavie pendant bien des années. Il était l'instigateur de plusieurs, l'initiateur de plusieurs grandes architectures modernistes, très avant-gardistes pour l'époque. Et quand il a fait ses architectures, il avait toujours, et quand il a fait ses voyages, il avait toujours des photographes avec lui. C'est les photographes de l'État.
Comme notre premier ministre.
Oui, exactement. Il faut avoir un document. Hein. Elle a trouvé ces photos-là. Elle a prêté des photos ou emprunté des photos de sa collection pour faire c'est un peu un paysage fictif où elle confond ses architectures et un paysage très sublime. Mm-hmm. Et ils sont en construction. Ils ne sont pas terminés. Donc oui, on a les gens de construction qui sont les architectes qui sont tous là pour surveiller la construction, et c'est le moment pour elle où une architecture est le plus révolutionnaire. Après que c'est fini, on peut se plaindre, mais tu sais, on n'a pas cette énergie. Mm-hmm. Donc elle voulait, et surtout partout dans cet paysage ou sur cette murale, il y a aussi encore des slogans qu'elle a pris des discours de Reagan, de Margaret Thatcher, de Mussolini. C'est pour un peu confondre le fait que peu importe le politicien, il y a toujours un discours ou une rhétorique qui domine hein, l'espace.
Et les formes noires au sol, quel est le lien?
Le format noir au sol, okay, ouais. c'est en fait des bancs. Où on peut s'asseoir dessus, cette forme triangulaire avec cercle, inspirée par un genre de grillage, un élément de décor, design, qui est dans cet ancien palais à Belgrade. Et c'est encore une fois un exemple de son réitération. Elle a approprié le design, puis elle a fait de ça un banc qui est aussi un genre de dispositif utilisé par les danseurs dans un autre film qu'elle a fait. Donc, ça revient encore une fois, ces formes, ces symboles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, maintenant, ça veut dire « yes, in a tibitz ».
Et dans l'autre grande salle, il y a aussi un grand rideau à motifs géométriques colorés de rouge, bleu, jaune, mauve, vert, gris et noir, qui couvre tous les murs. Et sur l'écran, il y a des danseurs qui bougent à l'intérieur d'un édifice luxueux. Quel est le lien entre la danse et cette présentation là, de peinture à motifs géométriques?
Elle est vraiment intéressée par, je crois, une interdisciplinarité où elle essaie d'explorer la question de l'art de gouverner par le biais de tous les arts possibles. Donc, elle a commencé, c'était la première fois ou la deuxième fois qu'elle a travaillé avec les danseurs. Elle voulait rendre hommage à cette performance, le ballet de Bartok, Le Mandarin Merveilleux, en recréant le ballet. Mais il n'y avait aucune trace de la chorégraphie originale. Mm-hmm. Donc, elle a refait ça avec une chorégraphe américaine avec laquelle elle a collaboré pour donner vie, c'est, à ce ballet disparu. Et autour de ce rideau vient de la palais aussi, inspiré par un motif au palais de Belgrade.
Et aussi dans la troisième salle, une maquette d'une architecture moderne avec un mât très long qui émerge. Et sur l'écran, il y a une femme qui assemble les parties de la maquette. Là, il y a un lien entre la musique et l'architecture.
Oui, et un lien aussi avec le merveilleux mandarin, encore une fois, de Bartok. C'est la sculpture, c'est une œuvre musicale. Elle a rendu la maquette d'un pavillon pour Bruxelles 58. Elle a rendu ça un instrument de musique. Et dans le film, c'est une violoncelliste ou violoniste qui joue l'air, un des mélodies de Bartok sur cet instrument de musique maquette.
Fabriqué par elle, en fait.
Fabriqué par un collaborateur, encore une fois.
Ah, d'accord. Alors, il y a les performances. Est-ce qu'il y en aura d'ici la fin de l'exposition?
Tous les samedis, on a les performances dans le paysage fictif à 465 et avec les œuvres textiles au troisième étage de 451.
À quelle heure?
À 14 heures.
À 14 heures. Alors, on peut visiter la Fondation des HCR au 451 et 465 Saint-Jean pour y découvrir les œuvres de Jasmina Sibic jusqu'au 3 mars. Et c'est ouvert du mercredi au dimanche. J'accueillais la commissaire et directrice générale, Cheryl Sim. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.